Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 1. Pontaubel. Le château de Pontaubel, où naquit Nicolas de Galandot le 4 juin 1716, était un fort beau lieu et restait tel, comme le constata François de Portebise, quand, après la mort de son oncle, accompagné du vieil intendant, qui, les clés à la main, lui en ouvrait une à une les chambres désertes, il en parcourut les hautes et basses salles avec tout le soin et le détail naturel à ces sortes de visites. On pouvait admirer à Pontaubel, outre la bonne dimension des vestibules, l'heureux agencement des corridors et la parfaite entente des dégagements, avec je ne sais quoi de sévère et de solide qui en rehaussait l'ordonnance. Tout y semblait pour favoriser une vie calme et réglée. Les escaliers, par leurs larges marches et leurs amples révolutions, conseillaient la lenteur des pas. Ils étaient aisés et justes à la montée comme à la descente, en proportion avec l'enjambée. La bibliothèque, vaste et bien fournie, disposait aux longues heures de lecture et de méditation. La salle à manger, monumentale, paraissait faite pour des repas copieux et graves, comme les salons, pour s'y entretenir avec décence et cérémonie, plutôt en propos alternatifs et en fortes sentences que par plaisanterie et calembre d'aile. Les hautes fenêtres y donnaient vue sur les jardins qui, par leurs allées régulières, leurs quinconces symétriques, leurs charmilles égales, semblaient reproduire au dehors le bel ordre intérieur. Devant le château, entre deux miroirs d'eau plate, sur une table de pierre, un cadran solaire marquait, de l'angle oblique de son gnomon de bronze, la durée du jour. C'est à ce cadran que M. de Galandot, le père, sut que son fils Nicolas venait de coûter à sa mère un laborieux travail. Car il était 8 heures du matin quand la noble dame ressentit les premières douleurs et ce fut à 3 de relevé qu'on accourut annoncer à son époux, au jardin où il avait fui le spectacle de l'opération naturelle, dont sa femme supportait patiemment les épreintes, que la conséquence s'en trouvait un petit garçon à qui il ne manquait rien. Monsieur de Galandot se sentit fort soulagé. Il prit dans sa tabatière une large pincée de tabac, souleva son chapeau, mit sa perruque à la pomme de sa canne et s'essuya cérémonieusement le front. Il commanda aussitôt qu'on lui apportât à boire. Un valet se montra bientôt avec une bouteille débouchée sur un plateau. Monsieur de Galandot se versa un grand verre de vin, le haussa à la hauteur de son œil et le but à la santé du jeune Nicolas. Puis il se dirigea vers la chambre de l'accouché, pour le compliment d'usage, qu'il abrégea, car il la vit sur ses oreillers, fort pâle et les yeux clos, ce qui mit quelques mesures à ses façons, qu'il avait d'ordinaire fort tournées au long discours. Le nouveau-né lui apparut aux mains des matrones, rouge, ridé et grimaçant. Il se laissa dire que le poupon était en tout point bien conformé et digne de son père, ce qui le fit fort content de tous deux. Bien que M. le comte de Galandot ne se départît pas facilement de sa gravité habituelle, il n'avait jamais été si ému depuis le jour où, orphelin, riche et pourvu de bonnes terres et d'écus sonnants, il était monté en carrosse pour aller demander au vieux M. de Mauceuil la main de sa fille cadette dont il souhaitait de faire sa femme, l'ayant vue à une assemblée où elle lui parut passer en sagesse et en agrément ce que la province offrait de beauté les plus qualifiées. Le vieux Mauceuil habitait Bas-le-Pré, comme on sait, mais ce qu'on ne saura jamais assez, c'est combien il se trouvait être le plus grincheux et le plus rechigné au bureau qui se pût voir. Il tirait de sa pauvreté un venin particulier dont la bile colorait son visage jaune et infectait son caractère hargneux. Ses habits, à l'ancienne mode, sa taille contournée et sa tournure carabosse faisaient de lui une sorte de marmouset redouté à la ronde pour la méchanceté de sa langue et pour son humeur tracassière. Ses filles, qu'il tyrannisait, le détestaient, et son fils Hubert ne le haïssait pas moins. Celui-là, qui ne lui ressemblait guère de corps car il était haut et bien pris, ne valait pas mieux à plus d'un titre. Si l'un, par sa fourberie venimeuse, eût mérité la potence, l'autre, par sa brutalité grossière, eût été digne du billot. En attendant le méfait auquel les vices de sa nature le destinaient tôt ou tard, il employait les forces de son bel âge à poursuivre les bergères derrière les haies et les souillons à leurs fourneaux. Au lieu de rester comme son père confiné à Bas-le-Pré, il courait le pays et se montrait partout, encore que peu à peu, on lui eût fait sentir le dégoût de ses bas excès, dont le moindre était de boire à outrance jusqu'à l'ivresse la plus furieuse. Il fallut voir comment le vieux Mosseuil reçut la requête de ce pauvre monsieur de Galando. Le comte avait préparé en route un discours dont il se répétait les termes et dont il ne put placer les premiers mots, tant monsieur de Mosseuil l'interrompit aigrement dès l'ouverture. Si bien que le prétendant s'embarrassa et finit par balbutier ce qu'il s'était promis de dire avec ampleur et ménagement. On le renvoya sans réponse après l'accueil le plus acariâtre, et, quand on acquiesça enfin à ses demandes réitérées, ce fut sous la forme la plus rebutante, en lui faisant sentir la faveur de cette union, où il assurait, à Jacqueline de Mosseuil, les avantages les plus considérables. Celle-ci attendait avec une anxiété secrète l'issue de la négociation. Bas-le-Pré fut terrible durant ces jours. Le vieux Mosseuil, qui avait cru surprendre quelque chose de la joie dissimulée de sa fille, y voyait celle de le quitter et s'en plaignait amèrement. L'aînée des deux demoiselles de Mosseuil, enragée de la préférence qui favorisait sa cadette, ne cessait de la tourmenter de sa jalousie vindicative et pensa mourir d'envie et de colère rentrée quand on apporta les parures que le comte, par amour et par ostentation, offrit fort riche et dont elle gâta méchamment l'une des plus belles en y répandant l'huile d'une lampe qu'elle en approcha sous prétexte de mieux examiner le grain de l'étoffe. C'était une magnifique soie à ramage qui se trouva perdue par cette laie de malice. Il arriva de même malheur à un flacon précieux qu'Hubert de Mosseuil, qui le touchait, laissa choir sur la dalle de ses mains avinées. Jacqueline, d'ailleurs, fuyait son frère avec une horreur manifeste et évitait même de lui parler, ce que, brutal et hautain, il n'eût pas souffert, si sa sœur n'avait eu quelque bonne raison à ce mépris public qu'elle faisait de lui et qu'il supportait d'elle sans rien dire et en courbant le dos sous la vanille. Enfin, le mariage eut lieu. Monsieur de Mosseuil conduisit sa fille à l'hôtel avec son plus sournois sourire. Quant au frère, il entra à l'église tellement ivre qu'il n'en put ressortir sur ses jambes et resta à son banc, accablé de vin, épris d'un si épais sommeil que les archers des violons, le branle des cloches et les pétarades de la mousqueterie ne parvinrent pas à l'éveiller. Les noces à peine accomplies, la nouvelle comtesse commença à prendre sur son mari un ascendant qu'elle ne perdit jamais et dont le premier usage fut de pousser le débonnaire Galando à refuser assez sèchement au vieux Mosseuil certains avantages qu'il s'était fait consentir et dont il se vit débouté. Le hargneux gentilhomme se rebiffa, mais sa fille prit prétexte de ses récriminations pour rompre net avec lui et, par la même occasion, avec sa sœur Armande, qui passa sa rage sur sa belle-sœur dès qu'Hubert de Mosseuil se fut marié à son tour, aussitôt leur père mort, d'une goutte remontée et de la colère que lui causa le procédé de sa fille et de son gendre, sourd à ses doléances furieuses. Madame de Galando ne le pleura guère, tout au travail de s'assurer, une fois pour toutes, son mari, qui se prêtait d'ailleurs de bonne grâce à une servitude pour laquelle il était naturellement fait. L'admiration où il tenait le caractère de sa femme s'accordait avec l'amour qu'il ressentait pour sa beauté. Aussi, Madame Jacqueline régna-t-elle sans conteste à Pontobel, non seulement sur l'esprit de son époux, mais encore sur toutes choses et sur tout le monde. Si sa conduite était habile, son administration était excellente, à la fois hardie et avisée, prudente et ferme. Le château fut reconstruit. On jeta bas l'ancienne bâtisse et, sur la place, s'éleva la nouvelle demeure. L'architecture en fut simple et solide. Madame de Galando veilla à tout, avec grand soin de laisser au comte l'idée qu'il était de beaucoup dans le projet et dans la réussite. Par ses divers moyens, elle l'occupait entièrement, en se réservant, au fond, de s'occuper de tout. Il ne demandait guère que de trouver sa table bien servie, son vêtement ample et ordonné, et les complaisances du lit quand l'envie lui en prenait. Elle ménageait ce triple goût, l'ayant reconnu gourmand de nourriture et vain d'habits. Quant aux besoins qu'il avait d'elle, elle y voyait le plus ferme soutien de son pouvoir et ne manquait pas à l'entretenir, tout en modérant l'usage afin d'en mieux sauvegarder la durée. Le comte était donc heureux. Une main adroite et sûre dirigeait tout autour de lui, faisait pousser les fruits au verger et les fleurs au jardin. Il n'avait qu'à en savourer la succulence et à en respirer l'odeur. Si la maison était bien ordonnée, les domaines étaient prospères. On vantait Clerchamp pour ses fourrages et ses granges pleines. Les blés de Noircourt et les Trois Fontaines étaient réputés dans le pays pour la qualité de leur paille et le poids de leurs épis. La ville aux bœufs devait son nom à la renommée de son bétail. Au Clos Joly et à Saint-Jean-la-Vigne, les cèpes venaient bien. Le sol des serpentes nourrissait des grappes juteuses. La forêt contenait les plus beaux arbres de la contrée. Des coupes sagement réglées n'abattaient que le nécessaire, laissant s'accroître la futaie et se fournir le taillis. Quand les bûcherons, la hache à l'épaule, les laboureurs, l'aiguillon au poing, les vignerons, la hotte au dos, venaient à Pontaubel pour quelque affaire de bail ou de loyer, Madame de Galando savait leur parler avec autorité. Elle obtenait d'eux ce qu'ils se présentaient pour demander d'elle. Aussi, l'admiration du comte pour Jacqueline était-elle sans bornes et sans mélange, d'autant plus qu'il connut sa femme toujours belle. La comtesse l'était quand il l'épousa. Elle l'était quand, après plusieurs années de mariage, naquit leur fils Nicolas. Son dernier regard la vit telle encore lorsqu'il mourut assez subitement pour être resté trop longtemps, un jour d'été, au gros soleil, chapeau bas et debout, auprès du cadran solaire, entre les miroirs d'eau, à y voir venir midi. On était en 1723, Madame de Galando avait juste 39 ans et le petit Nicolas finissait sa 7e année. Les obsèques du comte de Galando, comme toute sa vie, furent bien réglées. On y vint d'alentour et la noblesse de la province tint à saluer une dernière fois un de ses meilleurs gentilshommes. On défila dans les salons drapés de noir, devant la veuve en grand habit. Il y avait une chapelle ardente avec une herse de cierge. Les paysans portèrent à bras et sur leurs épaules le cercueil de Monsieur le Comte. On psalmodia. Les chantres nasillèrent. La petite église de Pontaubel, qui ne s'emplissait d'ordinaire que de l'odeur rustique des villageois, connut le parfum musqué des dames en atour de deuil. La tribune fut trop étroite pour les contenir. On s'installa comme on put avec un froufrou de jupe et des saluts de connaissance. L'absoute courba les têtes. La vieille dalle des sépultures fut soulevée. L'air froid du caveau offusqua le nez de ceux qui se penchèrent sur son trou noir. On y descendit les restes de Monsieur le Comte, le cœur et les viscères mis à part dans une urne d'argent, car ce pauvre homme était un riche et puissant seigneur. Son épitaphe en fit foi. Puis, le râteau des jardiniers effaça devant le château la trace des pas et le vestige des roues de carrosse. Chacun partit, et le cadran continua à marquer l'heure au soleil de sa petite ombre anguleuse, noire et mobile, sur la pierre tiède ou glacée.